et les midi et demi sur France Culture. Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un nouveau type de missile à très longue portée, testé avec succès ce matin par la Corée du Nord. Kim Jong-un déclare que son pays est devenu un état nucléaire à part entière. La Chine exprime sa vive inquiétude. Le Kremlin dénonce une provocation, appelle toutes les parties à garder leur calme. Analyse d'Éric Biegala dans un instant. L'actualité en France, cette réforme du mode de scrutin pour les européennes de 2019. Retour à des listes nationales plutôt que régionales ou multirégionales. Commentaire politique de Ludovic Piétenu. La Cour des comptes veut une règle d'équilibre pour la sécurité sociale et aussi plus de contraintes pour les médecins. Compte rendu du dernier rapport avec Marie Viennot. Vers la fin des expérimentations d'encadrement des loyers à Paris, le tribunal administratif estime qu'il aurait dû concerner cet encadrement toute l'agglomération parisienne et non la seule capitale. Précision d'Anne-Laure Chouin. Et puis en matière d'éducation, un décret est en préparation pour rétablir la possibilité du redoublement. Dossier suivi par Hakim Kasmi, l'invité de la séquence interview, Maëlle de Calan, qui est candidat à la présidence de Les Républicains. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
La littérature se doit-elle d'être thérapeutique pour exister? On va en parler avec notre invité Alexandre Geffen, qui publie aux éditions José Corti « Réparer le monde, la littérature face au XXIe siècle ».
Être un état nucléaire à part entière, c'est donc ce que revendique ce matin la Corée du Nord par la voix de son président Kim Jong-un, au lendemain de ce nouveau tir de missile dont la portée a été évaluée à 13 000 km, c'est-à-dire la plus longue pour un missile testé pour l'instant par la Corée du Nord. Le président américain affirme « on va s'en occuper ». Le secrétaire d'État Rex Tillerson rappelait que les options diplomatiques pour résoudre la crise restaient quand même pour l'instant ajoutait-il sur la table. La Chine exprime sa vive inquiétude. Le Kremlin dénonce une provocation et il appelle toutes les parties à garder leur calme. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc 13 000 km, ça permet de frapper n'importe quelle ville des États-Unis. Est-ce qu'il faut parler à nouveau d'un franchissement de seuil?
Oui, sans doute, du moins théoriquement, puisque le vol du missile lancé la nuit dernière par la Corée du Nord n'a en fait pas dépassé les 1 000 km en distance. Mais il s'est abattu en fait 200 km au large de l'île japonaise de Honshu, en mer du Japon. Mais il a pu atteindre une altitude de 4 500 km avant de redescendre. C'est un tir en cloche, si vous voulez. Et cet apogée à 4 500 km permet aux experts en balistique de calculer sa portée théorique en tir, qui ne serait plus un tir en cloche, mais un tir plutôt tendu. Ça fait 13 000 km, ce qui, toujours en théorie, permettrait donc de toucher un objectif n'importe où sur le territoire américain. Et c'était sans doute le but de la manœuvre, démontrer la capacité de la Corée du Nord à prendre pour cible n'importe quelle ville américaine. Lors des deux précédents tirs de missiles intercontinentaux, c'était à l'été, les vecteurs avaient volé moins haut, leur portée théorique ne dépassant pas les 10 000 km, ce qui leur permettait de menacer environ les deux tiers du territoire américain. Aujourd'hui, même les villes les plus à l'est, New York ou Washington, seraient à portée de tir. Mais ça ne veut pas encore dire que la Corée du Nord dispose effectivement d'un armement nucléaire opérationnel. Pyongyang n'a pas encore fait la démonstration de sa capacité à embarquer la lourde charge d'une tête nucléaire dans ses missiles, 500 à 600 kilos, et sur une telle distance. Elle n'a pas non plus démontré qu'elle maîtrisait la technologie dite de rentrer dans l'atmosphère, c'est-à-dire être capable de construire un véhicule transportant la charge nucléaire sur la phase finale du tir, un véhicule résistant aux énormes chaleurs de frottement qu'impose une telle opération. Ce sera sans doute là l'objet des prochains tests.
Voilà, quoi qu'il en soit, effectivement, il y aura un jour probable, plus ou moins proche, où la Corée du Nord sera effectivement une puissance nucléaire à part entière. Et comme le président américain Donald Trump a assuré que le développement de telles capacités n'arriverait pas, on est toujours quand même dans cette logique très risquée de confrontation.
Oui, alors pour ce qui est de la logique, celle de Kim Jong-un est claire et nette. Ces tirs de missiles, ce n'est pas une gesticulation militaire ou une série de provocations, ce sont des tests qui correspondent les uns après les autres aux tests normaux qu'ont dû développer tous les autres pays ayant eu l'ambition de se doter d'une force de frappe nucléaire. Et l'objectif, c'est clairement d'être en possession de cette force de frappe susceptible de dissuader qui que ce soit d'attaquer la Corée du Nord, et particulièrement bien sûr les États-Unis. Kim Jong-un refusera clairement de s'asseoir à une table de négociation avec les Américains tant qu'il ne sera pas à armes égales avec eux, et armes égales, ça veut dire pour lui, doté d'une arme nucléaire opérationnelle. Même si le secrétaire d'État américain Rex Tillerson parlait encore aujourd'hui d'options diplomatiques qui seraient sur la table, on ne voit pas très bien quelle elle pourrait être aujourd'hui si l'objectif des États-Unis, c'est bien d'empêcher Kim de se doter de sa force de frappe.
Éric Biegala, merci. La Côte d'Ivoire, ce sera l'étape du jour pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État participe à Abidjan au 5e sommet Union européenne, Union africaine, avec à l'agenda les questions d'immigration, de sécurité. Hier à Ouagadougou, il avait annoncé une initiative euro-africaine pour frapper, disait-il, les organisations criminelles et les réseaux de passeurs qui exploitent les migrants en Libye, ainsi qu'un soutien massif à l'évacuation des personnes qui sont actuellement actuellement en danger en Libye. Une interview du président libanais à la Stampa, Saad Hariri, restera certainement à son poste de Premier ministre du Liban. C'est ce qu'affirme donc Michel Aoun, selon qui la crise politique pourrait être définitivement réglée dans les prochains jours. On passe à l'actualité française avec les prochaines élections qui sont sur l'agenda politique, qui sont les élections européennes, échéance 2019 donc pour ces élections. Mais déjà les états-majors politiques s'y préparent activement, à commencer par l'exécutif qui cherche évidemment à ne pas manquer cette marche. Édouard Philippe, Premier ministre, doit annoncer sans doute cet après-midi le retour à un mode de scrutin par liste nationale. Et donc c'est la fin des circonscriptions régionales ou multirégionales pour ce genre d'élection européenne. La visibilité de La République En Marche dépend beaucoup de la personne du chef de l'État, on le sait, et donc logiquement c'est le niveau national qui est le plus favorable, Ludovic Piétonnier.
Oui, Emmanuel Macron en sera à 2 ans de mandat et en nationalisant ce scrutin, c'est à double tranchant. Le chef de l'État prend le risque de proposer aux électeurs de valider ou d'invalider sa stratégie européenne qu'il appelle de refondation. Qu'aura-t-il glané, qu'aura-t-il gagné d'ici là? C'est à lui de faire la démonstration d'une Europe qui protège les citoyens quand en face ses adversaires, les nationaux, les patriotes, Front National et Insoumis feront la démonstration d'une autre Europe ou de pas d'Europe du tout. Cette élection catalysera un des nouveaux clivages qui structurent le paysage politique, désormais non plus cet axe droite-gauche, mais bien cet axe pro et anti ou alter européen. Avec son action comme chef d'État, il espère que son parti, La République En Marche, raflera l'essentiel des voix en banalisant presque des listes comme celles des partis traditionnels du PS ou des Républicains. Autre intérêt pour Emmanuel Macron à nationaliser ce futur scrutin européen, un intérêt disons pratique, il n'a pas beaucoup de grosses têtes, de grands noms. 8 circonscriptions régionales, ça reviendrait à trouver tout de même 8 têtes de liste. Pour un parti jeune comme le sien, c'est une opération difficile. Pour les petits partis, c'est le même enjeu, la même difficulté. Pour les partis pro-européens comme les Verts, il n'y a aucun intérêt à régionaliser cette élection. Pour les partis qui manquent de cadres identifiés comme au Front National ou chez les Insoumis, aucune objection non plus à n'avoir qu'une seule liste nationale. Les seuls qui ne s'y retrouvent pas finalement, ce sont les Républicains, car ils ont, eux, des grands élus un peu partout qui peuvent défendre leur chance à l'échelle d'une circonscription régionale. Reçu ce matin, leur secrétaire général Bernard Accoyer l'a fait savoir vertement à Édouard Philippe, le Premier ministre, en dénonçant une manipulation électorale visant, je cite, à favoriser d'abord et avant tout les candidats d'Emmanuel Macron au risque de gonfler le poids national des extrêmes.
Voilà, merci beaucoup Ludovic Piétonnier. Effectivement, les Républicains qui parlent de même de tripatouillage du mode de scrutin. Bonjour Maël de Calan.
Bonjour.
Vous êtes donc candidat à la présidence de LR, c'est dans 10 jours. Un petit mot là-dessus avant de revenir sur cette campagne dans la séquence interview. Est-ce que vous êtes d'accord là sur, vous êtes en phase avec la position de votre parti sur cette question?
Oui, moi je pense qu'il fallait sortir de ce mode de scrutin avec des grandes régions que personne ne connaissait et qui n'avaient cours que pour le scrutin européen.
Pourtant, vous n'êtes pas du tout en phase avec votre parti alors?
Si, parce que je souhaitais, moi, comme Bernard Accoyer, régionaliser, mais dans le sens coller à la nouvelle carte administrative des 13 régions. Pourquoi? Parce que ce sont ces régions qui aujourd'hui distribuent beaucoup des crédits européens. Donc il y avait une logique à mettre en face la représentation démocratique au Parlement européen et l'action, notamment financière, qui transite aujourd'hui par les régions. Maintenant, l'essentiel, ça n'est pas le mode de scrutin en tant que tel, un mode de scrutin national, pourquoi pas. L'essentiel, c'est de demander qui seront les candidats de ces différents partis au Parlement européen. Vous pouvez avoir le pire comme le meilleur. Selon qu'on continue à traiter ce mode de scrutin comme un grand plan de pré-retraite qu'on donne aux battus du suffrage universel, ou qu'on envoie au contraire des gens qui s'intéressent aux questions européennes, qui sont déterminés à y rester longtemps pour y défendre les intérêts de la France.
Maël de Calan, merci. On vous retrouve donc dans la séquence interview. On évoque ce rapport de la Cour des comptes sur l'assurance maladie qui propose d'inscrire dans la loi l'obligation de réaliser des économies grâce notamment à tout un arsenal de mesures financières qui seraient des mesures coercitives à l'encontre des médecins libéraux, par exemple pour porter un coup d'arrêt, dit la Cour, au dépassement d'honoraires. Eh bien, elle suggère d'inclure dans la loi des règles de plafonnement qui entraînent, en cas de non-respect, l'exclusion du conventionnement du professionnel de santé en cause. Le même type de contrainte est recommandé pour obtenir un rééquilibrage de la répartition géographique des médecins. Le rapport évoque enfin la possibilité de forcer les jeunes diplômés à exercer dans des zones sous-denses, c'est l'expression de la Cour, pour une durée déterminée avant de s'installer en libéral. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Alors quelle serait finalement la logique de toutes ces mesures?
La logique, c'est toujours celle de la Cour des comptes, c'est-à-dire la maîtrise des dépenses, leur bonne allocation et, en ce cas, une meilleure réponse aux besoins de la population en soins de santé. Il y a de plus en plus de professionnels professionnels de santé, constate la Cour des comptes. Même le numerus clausus est contourné par l'appel à des médecins étrangers, mais ces médecins ne vont pas là où il y a des besoins. L'écart de densité peut aller de 1 à 8 selon les départements, les zones surdotées étant urbaines et littorales, et les zones délaissées en banlieue et rurale. Parallèlement, toujours plus de médecins spécialistes pratiquent les dépassements d'honoraires. Ils sont 45% à le faire maintenant contre 30% il y a 30 ans. Alors pour traiter les deux problèmes ensemble, la Cour des comptes préconise effectivement un conventionnement sélectif, ce qui veut dire que les médecins qui voudraient s'installer sans tenir compte de la densité médicale seraient obligés d'être en secteur 1 et ne pourraient donc pas faire de dépassement d'honoraires s'ils veulent que leurs actes soient remboursés par l'assurance maladie. Voilà qui ne plaira pas aux médecins, mais ils n'ont pas trop de soucis à se faire. La ministre de la Santé est opposée à ce conventionnement sélectif. Sa position est d'ailleurs en annexe de ce rapport. Un coup pour rien donc sur un problème récurrent. Le rapport met aussi l'accent sur le coût des affections de longue durée, qui représentent maintenant 60% des dépenses de l'assurance maladie et ne concernent que 16% de la population. Mais l'accent aussi sur la fréquentation anormale des urgences et la part très élevée du privé dans le système de soins français, c'est-à-dire des assurances complémentaires dans la prise en charge des soins de santé. Cette part est de 14% en France, c'est le record d'Europe derrière la Slovénie, et cela pose, écrit la Cour dans son langage feutré, de lourdes questions d'égalité d'accès aux soins. Elle propose un bouclier sanitaire, là encore une solution déjà maintes fois évoquée mais qui n'a jamais été endossée par les pouvoirs en place.
Marie Vienneau, merci. La Cour des comptes qui ne prévoit pas donc de subventionner la littérature, mais laquelle pourrait peut-être réparer le monde. On salue dans cette édition Alexandre Geffen qui est resté évidemment pour la dernière partie de la Grande Table. Bonjour.
Bonjour.
Réparer le monde, donc c'est le titre de votre livre aux éditions Corti. Sous-titré La littérature française face au 21e siècle. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être, puisque vous nous parlez de la vocation réparatrice de la littérature dans ce livre, pourquoi pas considérer qu'elle sert peut-être aussi à réparer les humains et le monde.
Une enquête récente a montré qu'il est de plus en plus fréquent que des généralistes préconisent des lectures à la place de médicaments. Ça porte même un nom, ça s'appelle la bibliothérapie. Quant à l'action du médecin de campagne, quelqu'un comme Martin Winkler la compare à celle de l'écrivain.
Alors bibliothérapie, ça, par exemple, ça pour quelle pathologie, quel livre?
Toutes les pathologies,
certains mal de près,
voilà. Mais en particulier les pathologies évidemment affectives.
On partira avec une ordonnance, j'espère.
Voilà,
tout à quand même,
absolument. Hein. Alexandre Geffen, merci. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table.
Midi 43 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine. La fin des expérimentations de l'encadrement des loyers, instaurée par la loi Allure de 2014, élaborée par Cécile Duflot. La mesure n'était jusqu'ici appliquée que dans deux grandes municipalités de gauche, à Paris depuis le 1er août 2015 et à Lille depuis le février 2017.
Oui, et après avoir été annulée donc récemment à Lille, eh bien la disposition qui devait réguler le marché locatif en zone tendue l'est désormais aussi à Paris. Tribunal administratif de Paris qui juge que l'encadrement aurait dû concerner en fait toute l'agglomération parisienne et non pas seulement la capitale intramuros. Une mauvaise décision pour la mairie de Paris, c'est une nouvelle régression pour les locataires, affirme l'association Droit au Logement. La fondation Abbé Pierre dit regretter vivement aussi ce jugement, Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc l'État fait appel donc de ce jugement, on l'a compris, du tribunal administratif de Paris, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui vraiment une volonté politique pour poursuivre cette expérience?
A priori oui, en témoigne, vous venez de le signaler, cette décision de l'État de faire appel et de continuer l'expérimentation. Si l'on voulait caricaturer, on pourrait dire pourtant que ce jugement rend caduque toute possibilité d'expérimentation en la matière. Le tribunal administratif de Paris a en effet annulé la mesure au motif qu'elle aurait dû concerner toute l'agglomération parisienne, c'est-à-dire toute la zone tendue au niveau des loyers, et non pas seulement quelques communes. Elle a d'ailleurs exactement transposé la décision rendue en début d'année pour Lille. Ce qui est paradoxal, et l'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot, n'a pas manqué de le souligner ce matin, ce qui est paradoxal, c'est que le Premier ministre de l'époque, c'est lui, Manuel Valls, qui avait de lui-même restreint le champ d'application de cette mesure. À l'époque, la loi stipulait que l'encadrement des loyers devait s'appliquer dans toutes les zones tendues, soit 28 agglomérations. En août 2014, Manuel Valls l'a restreignait pourtant aux communes volontaires seulement et à titre expérimental. Restriction jugée depuis illégale par le Conseil d'État. Réappliquer la loi pour les 28 agglomérations initialement prévues signifierait donc revenir dans la légalité. Et c'est bien ce qui gêne ceux qui ont déposé le recours, en l'occurrence l'UNPI, un syndicat de propriétaires, qui se félicite de la décision, mais pas forcément des motifs de cette décision. On rappelle à toute fin utile que cet encadrement des loyers prévoit qu'à la signature d'un nouveau bail ou lors d'un renouvellement, le loyer d'un logement ne puisse pas excéder de 20%, un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral. L'objectif est de stopper la flambée des loyers. Or, la ville de Paris, l'ancienne ministre du Logement, comme d'ailleurs le gouvernement actuel, juge que cette mesure a fait ses preuves. Dans les détails, une étude révélée il y a quelques mois que 40% des bailleurs parisiens, notamment, ne respectaient de toute façon pas cet encadrement des loyers.
Anne-Laure Choin, merci. À propos de logement, toujours le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud, propose d'augmenter fortement la taxe de séjour qui est applicable aux plateformes de location chez l'habitant, comme Airbnb ou Abritel, qui pourrait atteindre cette taxe jusqu'à 5% des recettes de la location.
Le retour du redoublement. Une commission spécialisée examine aujourd'hui un décret avant sa présentation devant le Conseil supérieur de l'éducation, prévu le 14 décembre.
Et oui, donc il rétablit la possibilité du redoublement qui avait été rendu exceptionnel par le précédent gouvernement. Le texte a été révélé ce matin par le Figaro. Dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le Conseil des maîtres. Hakim Kasmi, pour quelles raisons ce redoublement, jadis si décrié, retrouve maintenant une vertu ?
Les parents, comme les enseignants, le reconnaissent. Faire passer un élève qui n'a pas le niveau dans la classe supérieure peut avoir des conséquences sur la suite de son parcours scolaire. Mais pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pas question de faire juste redoubler un élève qui n'aurait pas le niveau requis. Désormais, il devra faire l'objet d'un accompagnement spécifique, ce qui se traduira par exemple par des cours supplémentaires de remise à niveau, notamment via le système devoir fait mis en place à la rentrée de la Toussaint dans les collèges. Si les enseignants saluent le retour du redoublement qui leur donne plus de poids d'un point de vue pédagogique, le SNES, principal syndicat du secondaire, dénonce le manque de moyens pour l'accompagnement de ce dispositif. Les syndicats qui estiment aussi que le retour du redoublement doit permettre d'éviter l'orientation subie, car beaucoup d'élèves en fin de troisième se retrouvent en filière technologique ou professionnelle par défaut. Si la France fait toujours partie de ceux qui font le plus redoubler dans les pays de l'OCDE, depuis 15 ans, le taux de redoublant a baissé en troisième. Il est passé de 6 à 3% entre 2005 et 2015.
Hakim Kasmi, le nouveau porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux défend ce matin la présence des missions d'investigation absolument indispensables, dit-il, pour notre démocratie, donc à la télévision. Il était interrogé en particulier sur la situation au sein de France Télévisions qui annonçait hier, après une forte mobilisation de la rédaction, que la diffusion des magazines d'investigation Envoyé spécial et Complément d'enquête serait finalement bien préservée. Invité ce matin de France Culture, le député France Insoumise François Ruffin voyait dans ces menaces contre les émissions de France 2, une visée idéologique, on l'écoute.
Je me suis positionné très fortement sur ce qui se passe à France Télévisions et je l'avais déjà dit même avant que ça ne se produise sur la censure politique déguisée en rigueur budgétaire. C'est-à-dire qu'on a des magazines qui peuvent sortir des informations gênantes, et bien on va leur refuser, donc Envoyé spécial, Complément d'enquête, Cache investigation, on va leur prendre des moyens d'exister, et de sortir des trucs sur la com de Macron, mais aussi sur la dépakine, sur le burn-out, sur Lidl, sur tout ça. On va les priver de ces moyens-là, ils n'auront plus le moyen de produire une information juste, et du coup, ben, il y aura même plus besoin de les censurer après, puisque l'information n'existera pas.
François Ruffin, c'était avec Guillaume Erner et Sophie Delpont. Maëlle de Calan, retour vers vous. Est-ce que vous pensez que le gouvernement veut contrôler l'information?
Non, je ne crois pas. Non. Notre démocratie est malade. Et dans une démocratie malade, on voit les faits alternatifs, la culture du complot se prospérer, se multiplier. Je ne pense pas. Non. Il y a une volonté de la direction de France 2 de faire des économies. Je ne sais pas si elle est opportune. Donc,
D'accord, vous n'êtes pas sur la lignée.
Je n'ai pas en général les théories complotistes.
Venons-en à votre candidature à la présidence des Républicains. René Raymond, le sait, faisait la division des trois droites, la droite libérale, la droite bonapartiste, la droite conservatrice. Or, il se trouve que Emmanuel Macron occupe quand même le créneau de deux d'entre elles, donc on peut dire la droite libérale et la droite bonapartiste, et que Laurent Wauquiez, votre principal adversaire, occupe la troisième, c'est-à-dire la droite conservatrice. Donc, quel est l'espace qui vous reste à vous, Maëlle de Calan ?
Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron occupe parfaitement parfaitement les deux droites que vous avez évoquées. Moi, je crois qu'il y a des millions d'électeurs qui, comme moi, ne veulent ni se dissoudre dans la droite populiste, ni se dissoudre dans le centre-gauche, fût-il social-libéral, avec le visage jeune et souriant d'Emmanuel Macron.
Et il n'est pas assez libéral, trop libéral, parce que...
Non, il va à certains égards dans le bon sens. Il mène une politique, moi, que je qualifie de droite quand il supprime l'essentiel de l'ISF, quand il baisse la fiscalité du capital ou qu'il réduit l'impôt sur les sociétés. Des outils qui, de notre point de vue, ne sont pas des cadeaux aux riches ou aux patrons, mais des outils de politique économique qui vont créer de l'emploi. Donc il fait une partie du chemin, mais il fait une partie seulement. Un exemple sur les questions économiques, il ne baisse pas la dépense. Il ne baisse pas la dépense parce qu'il refuse de bouger l'âge de départ à la retraite. Il ne baisse pas la dépense parce qu'il refuse de diminuer les effectifs. Si on ne baisse pas la dépense, il n'y aura pas de baisse d'impôts, il n'y aura pas de baisse du déficit. Et dans d'autres domaines, question de la politique migratoire, question de la politique familiale, on est en opposition avec Emmanuel Macron. Donc moi, je veux incarner une opposition intelligente, une opposition utile, une opposition qui sait être de bonne foi et donner des bons points, mais qui, malgré tout, se situe dans l'opposition parce qu'on a plus de points de désaccord que de points d'accord avec Macron.
Ludovic Piétonnier.
Alors, mail de Calan avec le micro, c'est mieux. Dans cette élection interne qui ne s'adresse qu'aux seuls adhérents LR, on a bien compris ce qu'était la droite voquée. Mais alors, l'autre candidate avec vous, c'est Florence Portelli. Qu'est-ce qui vous distingue de Florence Portelli, qui dit à peu près exactement les mêmes choses que vous, dans ce que vous venez de dire, en tout cas à l'instant. C'est-à-dire, bon voilà, la politique de Macron, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin, nous on irait plus loin.
Ouais. Je crois qu'il y a trois candidats, mais il n'y a que deux lignes. Il y a une ligne qui est très clivante, très contestataire, qui est portée et par Laurent Wauquiez et par Florence Portelli, qui tire à boulet rouge sur toutes les initiatives de ce gouvernement, qui critique aujourd'hui la baisse des dotations aux collectivités locales alors qu'on la défendait il y a 6 mois dans le cadre de la campagne présidentielle, qui critique la baisse des emplois aidés, qui critique la baisse des APL et qui se situe comme Laurent Wauquiez dans une opposition que je qualifie un peu de mélenchoniste, c'est-à-dire qui considère que pour être un bon opposant, il faut s'opposer toujours sur tous les sujets et le plus bruyamment possible. Moi je pense que l'opposition, ça n'est pas ça.
C'est pas une règle politique ça, de dire bah, finalement il y a un créneau qui reste ouvert face à Emmanuel Macron, il faut l'occuper.
C'est-à-dire je ne le crois pas. Moi, je ne crois pas que le rôle des partis politiques, ce soit de rechercher leur espace et de l'occuper. Je crois que c'est de porter les convictions dans lesquelles ils croient et qu'ils pensent être utiles au pays et à l'intérêt général. L'autre manière de s'opposer, que je veux porter dans ce scrutin au sein des Républicains, c'est de dire que l'opposition, elle doit être une alternative au pouvoir en place. Une alternative, c'est-à-dire avec des points, évidemment, de dissemblance, des choses qui nous séparent, mais qui peut avoir aussi des points de ressemblance. Et moi, c'est vrai, une partie de la politique économique d'Emmanuel Macron, j'y adhère. Non seulement j'y adhère, mais je veux que la droite l'encourage. Je veux que la droite pousse Macron à aller aussi loin que possible dans le sens de la réforme. Donc il y a trois candidats, mais il n'y a que deux lignes. Celle d'une droite fermée, contestataire et clivante, avec un vocabulaire de plus en plus agressif, d'une part, et de l'autre, celle d'une droite ouverte.
Enfin, vous devenez, constructif, finalement.
Oui, avec un petit C, le mot constructif est un peu galvaudé. La différence que j'ai avec les constructifs, c'est qu'eux ne croient plus dans l'avenir des Républicains. Alors que moi, je crois encore que l'union de la droite et du centre a du sens, et que c'est elle qui nous permettra demain de porter nos idées au pouvoir.
Ludovic Péter.
Plusieurs estimations, y compris venant des Républicains, tapent sur une participation de 50 000 adhérents seulement le dimanche 10 décembre. Sur quelques 240 000 adhérents au total, ça fait en gros 1 sur 5. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'état de votre parti ?
Ça dit d'abord que beaucoup de nos adhérents ont perdu 3 élections au cours des 12 derniers mois. La plupart ont perdu la primaire, ensuite tous ont perdu la présidentielle, et puis la plupart ont perdu la législative, après y avoir mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme.
Du coup, il n'y a plus d'envie chez les adhérents.
Il y a une certaine lassitude d'une part, d'autre part, il y a une grande confusion idéologique. On sait ce que sont nos idées, on ne sait plus très bien qui les défend sur le spectre politique. Enfin, il y a une forme de fragmentation du paysage politique qui n'aide pas, chacun créant sa petite chapelle. Moi, ma candidature, elle vise à chercher à dissiper un peu la poussière, dire ce que sont nos idées, celles d'une droite modérée, dire que ces idées ont toujours leur place au sein des Républicains, et dire que c'est l'union de la droite et du centre qui permettra demain de les porter au pouvoir.
Et vous avez du monde à vos meetings ?
Bon, pas des milliers de personnes.
C'est jamais des salles très pleines, même pour les trois candidats.
Bien sûr, je ne m'en cache pas. On cherche à intéresser nos adhérents, on fait tout pour le faire. J'avais proposé, moi, avec Florence Portelli qu'on organise un débat. Laurent Wauquiez s'y est refusé. Ou alors c'était vraiment à 2h du matin en pleine forêt.
Laurent Wauquiez fait peu de médias. Hein, ce sera d'ailleurs le seul candidat qu'on n'aura pas à
Laurent
ce micro.
Laurent Wauquiez a une conception du débat interne un peu surprenante, puisqu'il a dit à tous ceux qui n'étaient pas candidats à cette élection qu'ils n'avaient pas le droit de parler, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et tous les autres, et qu'il dit à ceux qui sont candidats à cette élection qu'ils n'ont pas le droit de débattre. Je crois que c'est dommage, parce que si l'on met sous le tapis la poussière, c'est-à-dire ce qui nous sépare, il y a des choses qui nous séparent. Moi, sur l'Europe, sur les questions économiques, sur les questions d'identité, je ne suis pas sur la ligne de Laurent Wauquiez. Pourtant, je crois que nous pouvons rester dans la même formation politique. Ça implique qu'on mette sur la table ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare, pour, à l'issue de cette élection, élaborer une ligne idéologique dans laquelle toutes les familles de la droite et du centre pourront se reconnaître.
Et on a appris aujourd'hui, juste pour conclure, que votre mentor Alain Juppé, Maëlle de Calan, allait vous soutenir un peu plus que ce qu'il n'a fait jusque-là, en assistant à votre prochaine réunion publique en Gironde.
Je ne fais jamais parler Alain Juppé, je dois être le seul juppéiste à ne jamais le faire.
Bien, voilà, en tout cas il n'y aura pas de débat avec Laurent Wauquiez. Merci d'être venu jusque dans ce studio. Un temps qui reste généralement couvert, sauf près de la Méditerranée, des températures de 2 à 14 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.